Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h23, merci à vous d'écouter Europe 1, c'est l'heure du grand débat du Club des idées. Alors on en parlait hier, l'islamisme radical a pénétré à l'école, mais aussi les réseaux sociaux. Le gouvernement veut durcir sa réponse. De quelle façon? Que peut-on faire contre ces messages haineux? Quel est l'arsenal répressif? Est-il suffisant? Les réseaux sociaux jouent-ils le jeu? On en parle ce soir avec mes invités en direct. Marie Soulez, avocate spécialiste en droit des médias au sein du cabinet Lexing, bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre Archambault, avocat également, spécialiste des questions numériques. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne également avec nous, Jean-Marc Royer, fondateur de Netino Webhelp, qui est un modérateur et il nous expliquera ce que c'est. Bonsoir.
Bonsoir.
J'aimerais, si vous voulez bien, d'abord qu'on rappelle la législation actuelle pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ce soir. Que peut-on dire ou ne pas dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux et surtout, qui contrôle ce que nous écrivons? Alexandre Archambault.
J'ai envie de dire que sur les réseaux sociaux, c'est comme dans la vraie vie. On se comporte sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. Donc tout ce qui est interdit, ou en tout cas sanctionné dans la vraie vie, l'est également aussi sur les réseaux sociaux. Donc il faut qu'on sorte effectivement de ce serpent de mer disant qu'il y a un vide juridique ou une impunité. Non, c'est avant tout, on verra, c'est un problème pas tant de législation que de méthode et de moyens accordés pour que la justice soit au 21e siècle au rendez-vous.
Alors qui contrôle tout ça? Est-ce que chaque plateforme a une veille? Maître Marie Soulez.
Alors, les plateformes ne sont pas obligées de contrôler les contenus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, a priori, pour les plateformes de contrôler les contenus qui sont publiés. En revanche, on sait qu'il y a des initiatives qui ont été mises en œuvre, notamment par Facebook ou Twitter, et qui visent, grâce à du développement d'algorithmes, à pouvoir identifier des contenus qui seraient susceptibles d'être ce qu'on appelle des contenus odieux. Donc ça va être effectivement du terrorisme, aussi tout ce qui est pédopornographie et autres.
Alors aujourd'hui, s'il apparaît une discussion avec un contenu odieux ou haineux ou potentiellement terroriste, qui décide actuellement de son retrait et au bout de combien de temps?
Alors déjà, il faut savoir que la loi a traité ce cas-là depuis 2004. C'est-à-dire que la loi, c'est la loi pour la confiance pour l'économie numérique, précise que lorsque vous êtes un acteur d'Internet, lorsque vous êtes confronté à un contenu qui est manifestement illicite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être juriste pour savoir que c'est odieux, que c'est outrancier, que c'est attentatoire à la dignité humaine, vous avez l'obligation, je dis bien l'obligation, de le rendre inaccessible.
Mais le problème, si j'ai bien compris, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas de responsabilité juridique sur ce qui est écrit. Ce sont que des plateformes de diffusion, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas poursuivre?
Alors, ce n'est pas tout à fait la règle. En fait, il n'y a pas de responsabilité juridique à raison des contenus qui sont publiés. En revanche, il y a un processus qui est mis en œuvre, qui est un processus de notification et qui impose aux plateformes, lorsqu'un contenu leur est notifié, qu'il est manifestement illicite, de le retirer. À défaut, elles vont engager leur responsabilité. Et elles ont une deuxième obligation, les plateformes, pareil, elles l'ont depuis 2004, qui est de mettre à disposition des internautes un moyen facilement accessible pour notifier un type de contenu particulier qui est justement ces contenus haineux, donc apologie du terrorisme, pédopornographie et autres. Et là, ils engagent leur responsabilité, étant précisé qu'aujourd'hui, c'est 250 000 euros d'amende. Enfin voilà, on a des sanctions assez lourdes.
Alors, je ne vous oublie pas, Jean-Marc Royer, vous êtes toujours en ligne avec nous. Je voudrais que vous nous expliquiez le rôle de Netino Webhelp. Vous êtes modérateur, ça veut dire quoi exactement?
Tout à fait. Ça veut dire que nos clients, qui sont la plupart des grandes entreprises françaises, en particulier beaucoup de médias comme les journaux, comme Le Monde, Le Nouvel Observateur, nous confient la mission d'aller sur leur page Facebook pour s'assurer que au moins sur leur page, pas sur la totalité des réseaux sociaux, mais au moins sur leur page, les propos que les gens tiennent sont conformes à ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire une charte de modération. Et de façon générale, le but d'un modérateur, c'est de faire que tout le monde puisse exprimer son opinion, mais sans s'insulter et sans se menacer.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h31, c'est la suite de notre débat du Club des idées sur Europe 1. Et on parle ce soir avec mes invités de la question de la diffusion de contenus haineux ou terroristes sur les réseaux sociaux, du rôle et de la responsabilité des plateformes. Alors on se souvient que le projet de loi de Laetitia Avia avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. C'est un texte qui voulait contraindre les plateformes à retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites, signalés sous peine de lourdes amendes. Les sages ont eu peur que les plateformes suppriment des contenus qui ne seraient pas forcément illicites, dans le doute, pour éviter des sanctions financières. Alors cet après-midi, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a fait cette annonce. On va l'écouter ensemble.
Nous ne pouvons plus nous résoudre à assister passivement au déchaînement de la haine sur les réseaux sociaux. La censure du Conseil constitutionnel doit nous amener à reprendre ce sujet sous une autre forme qui devra créer un délit de mise en danger par la publication de données personnelles. C'est bien, mes chers amis, monsieur le député, parce qu'il a été nommément désigné par les réseaux sociaux que Samuel Paty a été assassiné.
Est-ce qu'il a raison, Jean Castex ? Est-ce qu'il faut créer un délit de mise en danger par la publication de données personnelles ? Maître Alexandre Archambault.
Alors, j'ai envie de dire qu'effectivement, je n'arrive pas à me résoudre de voir qu'à chaque épisode dramatique dans ce pays, nous avons le concours Lépine de la loi de circonstances et d'émotions qui est rouvert et de plus belle. Parce que ce que Jean Castex préconise, ça existe déjà dans le droit français. L'article 226-22 du Code pénal pénalise la divulgation de données, enfin d'éléments personnels de nature à nuire à autrui. C'est exactement ce qui est arrivé à ce pauvre professeur. Nous avons dans notre droit un arsenal qui permet déjà de poursuivre les personnes qui se rendent coupables de tels actes.
Donc tout ça, c'est de l'affichage, hein, c'est ce que vous nous dites. Jean-Marc Royer, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Alors, déjà, il y a un point qui est très important pour comprendre le contexte de la modération dans le monde et sur les réseaux sociaux. C'est le volume de messages dont on est en train de parler. Rien que pour Facebook seul, sans même parler de Twitter et des autres, c'est chaque seconde un demi-million de commentaires nouveaux qui sont publiés sur la plateforme dans 150 langues différentes. Ça fait 43 milliards par jour, c'est colossal. Et donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place des mesures de modération, certes, des mesures juridiques aussi, mais qui soient faisables et applicables, parce que ça sert à rien de pénaliser, ça sert à rien de mettre de la pression sur les opérateurs tels que Facebook si derrière on ne les met pas dans la possibilité de humainement traiter ça. Facebook, ils ont 40 000 modérateurs. C'est la plus grosse équipe de modération dans le monde et de très très loin. Mais même avec ces 40 000 modérateurs humains, ils sont en mesure de traiter une toute petite partie du volume de messages qui sont publiés. Alors, ils sont aidés par des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de faire une partie du traitement, qui permettent d'aider. Malheureusement, il reste encore beaucoup de volume à traiter. Donc, pour parler de la modération, il faut aussi comprendre cette question de volumétrie. Et on l'a dit aussi pour la question de la loi. La loi existe déjà. Il y a déjà des moyens de pénaliser un certain nombre de textes, en particulier les menaces de mort. Après, la problématique, c'est qu'on est face à des volumétries de messages haineux qui sont énormes, qui se chiffrent en millions ou en milliards.
Et ça ne va pas s'arranger avec la 5G. Hein.
Oui, ça ne va pas s'arranger malheureusement dans le futur avec le développement des réseaux sociaux. Je peux vous donner un élément, c'est que notre société publie tous les trimestres une étude qui s'appelle le panorama de la haine, où on fait une analyse des propos qui sont dits sur les pages Facebook de nos clients. Et les chiffres qui reviennent, c'est tous les mois une variation, mais qui est en l'ordre de entre 10 et 13% de tous les messages qui sont publiés, qui sont des messages haineux. Donc 10-13%, ça représente des milliards de messages haineux. Presque un message haineux par habitant sur Terre chaque jour. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur du problème auquel nous sommes confrontés.
Marie Soulez, je rappelle, vous êtes avocate spécialiste en droit des médias. C'est quoi la solution ? Alors quels sont les outils concrets qui manquent aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous diriez au gouvernement qui cherche une solution visiblement ? Parce que là, il y a urgence.
Alors, la solution, on la voit un petit peu dans la censure du Conseil constitutionnel, qui est qu'aujourd'hui, il faut trouver un équilibre entre la nécessité effectivement de stopper la prolifération des messages haineux tout en conservant notre liberté d'expression qui est quand même excessivement importante. Et c'est d'ailleurs là qu'est intervenue la censure de la loi Avia, puisqu'on a eu peur que les réseaux sociaux, pour éviter des sanctions, suppriment un petit peu rapidement. Il y a aujourd'hui, et les plateformes l'ont fait et le font depuis quelques années, tout un développement d'algorithmes, des investissements qui sont réalisés par les éditeurs de plateformes et qui, a priori, devraient améliorer une pré-modération sans rendre en même temps les plateformes responsables d'un contenu qui serait publié.
A priori.
A priori. Mais dans un système un petit peu mixte, où d'un côté, on ne changerait pas cette absence de responsabilité des hébergeurs, parce que, effectivement, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est impossible de modérer de valeur absolue l'ensemble des contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux, et en même temps, inciter au développement des moyens. Et alors, il y a une décision...
Alors, si le problème, c'est le volume, est-ce qu'il est possible d'accorder un certain quota de volume à chaque personne ? Par exemple, de messages.
Alors, je pense qu'on ne va pas du tout vers cette orientation-là, surtout que ce serait assez attentatoire à la liberté oui. d'expression. Mais en revanche, il y a une décision qui a été rendue hier par le tribunal de grande instance de Paris qui est assez intéressante parce que pour la première fois, Twitter va devoir, avec plusieurs associations, s'engager dans une médiation judiciaire. L'objectif étant que Twitter fournisse les informations sur la manière justement dont les contenus sont modérés. Donc on va vers plus de transparence.
Parce que pour l'instant, c'est trouble.
Oui. Oui. Disons que si on peut prendre une analogie,
Alexandre
Archambault. Si on peut prendre une analogie, c'est un peu. On est sur le même contentieux en termes de volumétrique, les délits routiers. Est-ce que pour autant, on rend responsables les constructeurs automobiles des accidents de la route, des morts sur la route ? Non. Par contre, effectivement, les constructeurs automobiles doivent faire homologuer leur véhicule, ils doivent respecter des normes. Et donc, c'est exactement le point que soulevait ma consoeur, à savoir qu'effectivement, on manque de transparence sur les outils qui sont mis en œuvre par les grandes plateformes. La sphère publique nage totalement dans la compétence, enfin, et dans l'accès à cette information. On est dans une espèce de boîte noire. Et donc, effectivement, il faut que les plateformes ouvrent un petit peu le capot pour qu'on puisse savoir comment ça fonctionne et le cas échéant, bien évidemment, c'est ce qu'a dit aussi le Conseil constitutionnel et l'Union européenne, dans le cas d'une approche coordonnée si on veut être efficace, ne sera pas nationale mais communautaire. C'est comme ça qu'on a pu peser sur les grandes plateformes, par exemple sur les données personnelles, avec une approche communautaire où on pourra effectivement les amener à... parce que la responsabilité est collective. Vous avez les plateformes, mais vous avez aussi les pouvoirs publics et nous aussi les utilisateurs.
On poursuit ce débat passionnant dans un instant avec vous, messieurs, dames, sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et on parle ce soir sur Europe 1 dans votre club des idées de l'influence des réseaux sociaux mis en relief par le drame de Conflans-Sainte-Honorine. On a vu combien il était difficile aujourd'hui de tout contrôler et je voudrais qu'on aborde un sujet important, capital même, me semble-t-il, l'anonymat. Il y a de plus en plus de comptes anonymes, certaines personnes en ont même plusieurs. Est-ce qu'une levée de l'anonymat est envisageable ? Je vous pose la question, Jean-Marc Royer, je rappelle que vous êtes fondateur de Netino Webhelp qui est un modérateur.
Alors, je vais répondre sous un angle de professionnel de la modération et pas sous un angle juridique de ce qui est faisable et de ce qui est acceptable par l'opinion publique, ce qui est malheureusement un autre aspect. Mais sous un
on
angle...
a deux avocats avec nous, on leur posera la question.
Oui, voilà, ils pourront. Sous un angle de modérateur, la réponse est oui, et je dirais même que c'est la seule solution. Alors, pas la levée de l'anonymat, dans le sens que il n'est pas utile que les plateformes ou le grand public sachent qui est qui. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les forces de l'ordre, quand elles doivent verbaliser, quand il y a un propos illégal qui est posté, aient un moyen simple et rapide et immédiat de pouvoir avoir l'identité de la personne. Moi, j'ai tout à l'heure, votre invité parlait du droit routier.
Alexandre Archambault, oui.
Donc, voilà. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux systèmes juridiques en France. Il y a le droit standard qui implique qu'il faut passer devant un juge pour être condamné. C'est adapté à des gros crimes, mais c'est lourd et on peut traiter qu'un petit volume de cas. Et puis, pour les crimes en série, je dirais, les petits délits, pas crimes, mais petits délits en série, il y a le droit routier où on a des infractions en gros volume, des millions pour stationnement interdit, un excès de vitesse. Mmh. On a des petites amendes modestes. Et là, on a une possibilité d'être adapté à un droit qui est adapté à une situation de gros volume. Ben, Internet, c'est un peu ça. On a à peu près la même situation. On a essayé d'appliquer l'ancien droit, celui droit commun, à une situation qui est sur des volumes en millions de litiges. Et ça, c'est pas possible. Le seul moyen, c'est de se rapprocher d'un système qui est celui du droit autoroutier. Votre voiture, elle a une plaque d'immatriculation. Donc, ça vous permet pas, quand vous voyez une voiture dans la rue, de savoir à qui elle appartient. Mais par contre, ça permet aux forces de l'ordre, elles, de retrouver si quelqu'un a commis une infraction.
Alors ça, c'était l'avis du modérateur. L'angle juridique, maintenant, Maître Marie Stoulez, vous en pensez quoi ?
Alors, c'est... De la même manière, c'est prévu dans les dispositions qui sont assez anciennes, puisque ça date de 2004. donc toujours de cette loi pour la confiance dans l'économie numérique, où effectivement il y a un droit à l'anonymat sur Internet. Alors c'est un droit à l'anonymat pour les personnes physiques et qui est tout relatif puisque en contrepartie de ce droit à l'anonymat, les hébergeurs, donc les plateformes en l'occurrence, vos fournisseurs d'accès Internet, ont l'obligation, eux, de conserver les données qui permettront de vous identifier dans l'hypothèse où un délit, contravention ou un crime serait commis pour que, effectivement, des actions puissent être engagées.
Mais aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe? Parce qu'on a entendu beaucoup de personnes qui appelaient à faire en sorte que l'anonymat des internautes soit levé tout de suite en cas d'appel à la haine ou d'apologie du terrorisme. Sauf que dans le cas de Conflans-Sainte-Honorine, les témoignages vidéo ils ont été faits à visage découvert. La police a immédiatement pu relier le compte Twitter du terroriste à son identité. Dans ce cas-là, ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein.
Non, effectivement, sur ce cas-là, nous avions effectivement des personnes qui étaient tout ce qui est de plus identifiable. Mais pour répondre à votre question, qui est très pertinente, ça peut être fait en quelques minutes. Et d'ailleurs, je corrigerai un petit peu les propos de ma conjointe, parce qu'on en porte peut-être effectivement, nous autres juristes, une part de responsabilité. Mais non, en fait, il ne faut pas qu'on confonde anonymat et pseudonymat. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet depuis 2004, comme le rappelait ma consoeur. Effectivement, chaque intermédiaire technique doit disposer des éléments contribuant à l'identification. C'est un peu le système de la plaque d'immatriculation qu'évoquait notre autre invité. Ouais. Par contre, effectivement, ce qui est garanti et ce qui est un des supports, une des conditions de la liberté d'expression, c'est le pseudonymat. Malheureusement, on a tendance un peu à confondre les deux. Ce n'est pas parce qu'on est sous pseudonyme qu'on n'est pas identifiable. C'est-à-dire que, regardez-moi, avec ma voiture, j'ai une plaque d'immatriculation. On ne sait pas que c'est Alexandre Archambault, mais les forces de l'ordre savent que si je fais un délit, c'est Alexandre Archambault à qui on enverra la main.
Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on sait tracer une adresse IP et identifier la personne qui est derrière.
Si l'État sait être efficace, en quelques minutes, on peut identifier quelqu'un. Les grands acteurs de l'Internet, les Apple, les Facebook, les Google, mettent en place et ont mis à disposition des forces de l'ordre des pays des interfaces en ligne qui permettent, une fois qu'on est authentifié, bien évidemment, et qu'on parle la langue, enfin voilà, c'est une histoire de coordination, mais une fois qu'on a mis en place tout ça, on peut obtenir une identification en quelques minutes pour l'adresse IP. Et après, vous couplez ça sur le fournisseur d'accès Internet, les Free, les Orange, les SFR et Bouygues, et donc, en moins d'une demi-heure, vous êtes en mesure d'identifier quelqu'un, y compris sur les situations d'urgence.
Donc en fait, c'est un faux débat, ces demandes de lever de l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est des effets de manche politiques?
On est un problème d'acculturation du numérique de la part de nos décideurs publics qui s'obstinent à plaquer sur le 21e siècle des schémas qui datent du 19e et du 20e.
Marie,
c'est un problème de moyens.
Vous êtes d'accord?
Oui. oui, je suis d'accord. Mais effectivement, c'est un faux débat. Parce qu'en réalité, on le voit dans les affaires qu'on traite, les avocats, ce pseudo-anonymat sur Internet est pas difficile à lever, on a des procédures spéciales qui existent, procédures de référé, des procédures sur requête, et on a cette obligation pour les hébergeurs et les fournisseurs d'accès Internet de conserver ces données-là. Alors effectivement, il y a des procédures qui sont des procédures d'urgence particulières et qui permettent aux services de police d'accéder à ces données. Mais il est vrai que je comprends cette interrogation, puisque ces procédures sont bien entendu peu connues et que la réalité est qu'on voit sur Internet des propos où on a l'impression que les personnes se cachent derrière leur pseudonyme pour diffuser toute la haine qu'ils ont envie de diffuser. Et c'est là où effectivement il y a un écart entre la perception par le public de l'Internet et la réalité à la fois technique et juridique.
Il y a une autre question qui me semble intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, on l'évoquait un peu tout à l'heure, avec les algorithmes des réseaux sociaux qui affichent les idéologies avec lesquelles est plutôt d'accord la personne qui se connaît? Quand on voit des dizaines de publications violentes par jour parce qu'on a au départ des idées déjà extrémistes, ça provoque une radicalisation des idées. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Comment est-ce qu'on peut ouvrir à la pluralité? Est-ce que c'est possible?
J'ai envie de dire qu'en fait, c'est une responsabilité qui est collective. Effectivement, c'est passer à côté du sujet de vouloir braquer le projecteur exclusivement sur les plateformes. Elles ont leur part de responsabilité, notamment certaines.
C'est ce que vous nous dites depuis le départ.
Voilà, certaines qui ont un modèle économique qui valorise le clash, les opinions polarisantes, clivantes, etc. Pour autant, effectivement, les pouvoirs publics ont aussi une responsabilité. Par exemple, pour faire en sorte que la justice ne soit plus le parent pauvre de l'investissement public. Parce que pour qu'on puisse effectivement punir les auteurs, il faut qu'on ait des magistrats.
Il n'y a pas assez de moyens,
pas assez de
magistrats.
Ce
n'est pas les manques de policiers, c'est le manque de magistrats surtout.
Magistrats, policiers, c'est-à-dire que quand on parle de la chaîne pénale, nous avons, la France dépense par habitant moitié moins que l'Allemagne pour sa justice. Et on le voit concrètement, on a une justice qui est débordée, qui ne peut pas poursuivre. Et donc, quelque part, on contribue à un sentiment d'impunité. Faites le test, hein, allez dans un commissariat pour déposer plainte sur des problématiques de contenu haineux.
Mais on a la fameuse plateforme de signalement Pharos qui dépend de la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité. Elle n'est pas efficace non plus.
Elle est submergée. Pharos traite à peu près 300 000 signalements en rythme annuel sur cette année.
Et là, elle a reçu plus de 500 signalements, je lisais ça, hein, en lien avec l'assassinat de Conflans-Sainte-Honorine. C'est impossible à gérer.
Si, c'est possible à gérer, mais à condition de mettre les moyens.
Et Jean-Marc Foyer, le mot de la fin avec vous, peut-être vous qui êtes modérateur. Comment est-ce qu'on fait, du coup, si cette plateforme qui est censée aider à résoudre ces problèmes est saturée?
Tout est une question de volumétrie. On n'applique pas les mêmes méthodes pour une poignée de messages que pour des millions ou des milliards. On parlait qu'il y avait des moyens de faire trouver l'adresse IP de la personne, c'est vrai, mais ça prend du temps, il faut faire une requête, il faut automatiser tout pour que pour les forces de l'ordre, avec une équipe qui reste réduite, parce qu'on ne peut pas mettre des centaines de milliers de gendarmes sur le terrain, ils puissent automatiser pour traiter des millions de messages de manière automatique, des millions de litiges, au lieu d'en traiter un nombre à la main. Il faut accélérer chaque processus, parce que de toute manière, un utilisateur, quand il voit son message supprimé, il en reposte deux derrière.
Et donc, est une question de moyens. On a bien compris votre message. À tous les trois, merci Marie Soulez, Alexandre Archambault et Jean-Marc Royer d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre éclairage sur ce sujet intéressant et d'actualité. Et je rappelle qu'on attend un premier train d'annonce, sans doute dès demain, sans doute, hein, à l'issue du Conseil des ministres. Europe 1.